J'ai fait partie de la commission MASO. Je vais juste en dire un mot en introduction. Vous savez qu'il s'agissait de donner son avis sur devait-il y avoir des quotas, devait-on changer pour un tribunal unique la répartition entre tribunal administratif et tribunal judiciaire, et devait-on introduire les quotas dans la Constitution. Alors, sans trop de peine, en fait, les trois réponses ont été non. Et assez vigoureusement dans le rapport, comme la commission était quand même constituée en majorité d'hommes de droite, le texte n'est pas toujours très, très heureux, mais il y a des rectificatifs à la fin. Ceci dit, c'était un faux-semblant. Quelque part, Hortefeux s'en moquait totalement. Et ça va paraître dans les cahiers ou dans je ne sais quelle collection de la documentation française qu'on ne peut acheter que qu'est Voltaire, donc ça ne fera pas de mal. Et dans le même temps, exactement où cette commission se réunissait, Hortefeux menait sa propre politique totalement différente, qui n'était pas dans les questions posées, qui était une politique de signature d'accords bilatéraux avec plusieurs pays, avec notamment le Bénin, le Congo-Brazzaville, puis plus tard le Sénégal et la Tunisie, des accords très particuliers, c'est-à-dire qui contenaient des quotas, alors une discussion sur leur nature, toujours au nom de l'immigration choisie, de compétences et talents, enfin vous connaissez tout ce vocabulaire, et en échange, c'est directement lié à ce que nous discutons ce soir, qui demandait des engagements, qui contenait des engagements des États pour accepter les étrangers expulsés, donc que leur consulat en France ait des consignes d'acceptation pour les expulsions. Donc c'est un genre extrêmement particulier qui n'avait rien à voir avec le travail qu'il faisait faire, ou une question qu'il avait posée à la Commission, mais qu'il contredisait directement. Et ces accords continuent et sont un véritable danger à un grand nombre de points de vue, notamment le fait qu'on fixe de cette manière-là des quotas par pays. Je vais en venir juste à la question des chiffres pour ouvrir le débat, mais ce que je viens de vous dire, c'est à propos de la dissimulation, je pense que l'ensemble la présentation de la question de l'immigration est justement sous le signe de la duplicité. Et d'une duplicité où les chiffres jouent un rôle assez important, non pas tant en tant que chiffres, vous allez le voir, mais en tant que prétexte à faire accepter des catégories. Et je vais le montrer sur plusieurs points. En quelque sorte, alors, est-ce qu'il faut rejeter les chiffres? Non, mais là, les chiffres servent d'une certaine manière de point d'arrivée, comme s'ils étaient là, et on leur fait dire ce qu'on veut. Or, au contraire, les chiffres sont utiles, mais ils sont utiles pour entrer dans la discussion, ils sont utiles pour la critique, et pas du tout pour la conclusion ou pour ce qu'on estime être un savoir. Or, dans un certain nombre de circonstances actuelles, il s'agit d'enfoncer des clichés dans les crânes. C'est, vous le savez, une simple entreprise de propagande, et une entreprise de propagande qui a une logique très forte, puisqu'elle est à destination des électeurs, de ceux qui sont encore ou qui étaient électeurs du Front National. Il s'agit de les arrimer à la majorité d'ultra-droite que nous connaissons, et pour les arrimer, il faut qu'il y ait un certain type de discours, une certaine apparence. Si je vous prends par exemple, juste pour commencer, le cas des reconduites, vous savez qu'il y a maintenant, depuis plusieurs années, il faut faire du chiffre. Alors on passe il fallait 25 000 reconduites aux frontières, et maintenant il en faut, je crois, 26 500 ou un peu plus. Ce genre de chiffre est typique. C'est-à-dire qu'il est dépourvu de toute base objective. Vous avez, comment peut-on fixer un tel chiffre? Ou bien on dit, ce qui après tout était la question des OQTF, des ordres de quitter le territoire français, on dit, bah, puisqu'ils sont sans papier, tous doivent partir. Puis voilà, là il n'y a pas de chiffre à donner. Il y a simplement à constater qu'une loi, même mauvaise, est faite pour être appliquée. Mais là, étant donné qu'on ne connaît pas le nombre de sans-papiers par définition. Qu'est-ce que ça veut dire de dire il en faut 25 000 et s'il y en a moins de 25 000 par exemple, hein. Ça n'a absolument aucun sens. Alors pourquoi ce chiffre est-il donné? Je me suis demandé quel était le fond de l'affaire. Par exemple, il ne viendrait à personne l'idée de dire il y a eu 1500 condamnations l'année dernière à la prison à perpétuité, il faut qu'il y en ait 1650 cette année pour assurer l'ordre public. Ça paraîtrait délirant. Alors pourquoi est-ce que ça ne paraît pas aussi délirant? Je crois que là est la perversité. Je pense que par derrière, il y a l'idée, il faut moins d'accidents de la route, voyez. Donc il y a 5000 morts à peu près, 4500 morts par accident de la route, il faut qu'il y en ait 4000 seulement cette année. Autrement dit, le chiffre dans cette acception est présenté comme une donnée positive. Autrement dit, le chiffre sert à valider l'idée que c'est positif. De la même manière, c'est positif de réduire le nombre de contaminés de sida, de réduire le nombre des accidents de la route, c'est positif d'augmenter le nombre de reconduites à la frontière. Je crois que c'est ça le rôle, au fond, en quelque sorte, dissimulé de ce chiffre, étant donné qu'il n'a aucun sens et qu'il est pourtant poussé à ce point-là. Alors, ce n'est pas le seul chiffre. Je vais passer en revue très rapidement plusieurs autres chiffres qui dissimulent des concepts qui n'ont pas de raison d'être ou qui ont une raison d'être pour la propagande. On m'a demandé de dire un mot des entrées et des sorties. Je ne vais pas entrer dans le détail, et par contre je suis entré dans le détail clairement sur ce point dans une note justement au fameux rapport Mazo. C'est le type même de chiffre qui n'existe pas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas connaître le solde migratoire en France parce qu'on ne mesure pas les sorties. Donc quand vous voulez avoir un solde, vous voyez, quand vous avez le solde de votre compte en banque, il y a débit, crédit. Vous avez ce qui est entré et ce qui est sorti. Mais il y a une particularité, la France calcule un solde uniquement avec ce qui est entré. Et encore, ce qui est entré, quand vous entrez justement dans le détail, ce n'est pas vraiment entré. C'est simplement les autorisations administratives, c'est-à-dire les autorisations, les cartes de séjour qui sont délivrées. Elles peuvent être délivrées à des personnes qui sont là depuis 10 ans. C'est considéré comme une entrée. Donc le chiffre ne veut rien dire. Il veut rien dire à un point que quand vous regardez, vous avez un moyen de contrôler ce que je dis, quand vous regardez les statistiques publiées, 1 par l'INSEE, 2 par Eurostat et 3 par l'INED, donc 3 institutions qui en principe font référence, vous avez des différences énormes sur la question du solde. Entre 1999 et 2003, Eurostat compte un solde positif de 550 000 personnes de plus que l'INSEE. C'est pas rien. L'INED se positionne entre les deux. L'INED compte 250 000 personnes de plus que l'INSEE. Alors quand on entre dans le détail, il y a tout un énorme cafouillage statistique lié notamment au fait que, vous le savez, il n'y a plus de recensement. D'autre part, lié aussi au fait qu'on ne compte les soldes que pour les étrangers. Alors, la manière en fait de l'INSEE est la suivante: on prend les entrées administratives d'étrangers, et puis pendant un certain temps, l'INSEE ôtait 20 000, et ça lui donnait, il y avait 20 000 sorties. Je me suis rendu compte en comparant le solde publié et les entrées officielles, il y avait 20 000 de différence. Donc c'était ça les sorties, qui étaient des sorties conventionnelles, si l'on peut dire. On ne comptait pas le solde des Français. Or, un fait important actuellement est que, sans doute, comme on ne le compte pas, on ne le sait pas, mais on le sait à travers les inscriptions de Français à l'étranger, notamment dans les recensements étrangers, et on peut suivre cela dans les volumes que publie d'ailleurs l'OCDE. Et vraisemblablement, il y a un solde négatif de 50 000 Français chaque année avec l'étranger. C'est important parce que ça veut dire, alors vous me direz c'est terrible, non, si ces Français pensent qu'ils réalisent mieux leur parcours de vie à l'étranger qu'en France, ben, qu'ils tentent leur chance, hein, c'est à la France de les retenir si vraiment on veut qu'ils restent. Mais d'autre part, s'il y en a qui partent, il faut qu'il y en ait d'autres qui arrivent, et au fond c'est simplement, si ces Français partent, c'est parce qu'on est dans On est entré dans une phase de circulation. Et je pense que de plus en plus, il faudrait essayer d'éviter cet autre mot, immigration, qui est un mot qui est tout à fait connoté, qui a l'air de dire, voilà, on vient d'un pays, on s'installe dans un autre définitivement. Or, de plus en plus, on assiste à une circulation. C'est-à-dire, on peut s'installer pendant quelques années dans un pays, on peut y rester aussi toute sa vie, mais on peut aussi, et c'est, semble-t-il, de plus en plus souvent le cas, repartir pour un autre ou rentrer dans le pays d'où l'on vient. Il y a de plus en plus une circulation, et la manière de compter et le terme d'immigration a, en quelque manière, la capacité de gommer cet aspect de mouvement, de circulation, de le transformer en problème, notamment d'intégration, d'identité. Enfin, je ne vous refais pas tout le topo. Autre exemple, alors, vous voyez que sur la question solde, entrée-sortie, les chiffres sont à prendre avec des pincettes. Autre exemple, l'opposition qui a été orchestrée par le gouvernement entre immigration de travail et immigration familiale. Vous avez entendu, il fallait qu'on arrive, et c'était même dans la lettre de mission de la commission Mazot, il fallait que l'immigration de travail devienne au moins 50% de l'immigration totale, et donc que l'immigration familiale passe au-dessous de 50%. Alors, la réponse rapide de la commission a dit que c'est impossible, étant donné qu'il y a une assez bonne démonstration juridique qui a été faite montrant qu'il faudrait à ce moment-là revenir sur la déclaration, la Convention européenne des droits de l'homme. Il faudrait même, grosso modo, il faudrait sortir de l'Europe pour pouvoir réaliser ce beau programme, parce qu'il faudrait revenir sur les conditions les plus importantes du regroupement familial et au fond du droit à la vie familiale. Mais le plus vicieux n'est même pas là, le plus vicieux est que c'est une opposition qui n'a pas lieu d'être. Alors, quand vous regardez effectivement dans les statistiques, vous voyez que à peu près 10 000 personnes entrent chaque année au titre de la migration de travail. On dit le reste c'est familial, mais non, d'abord le reste comprend des migrations qui ne sont pas de type familial, qui sont par exemple les réfugiés, qui sont aussi à peu près 10 000, ou bien qu'on prend des personnes qui viennent pour se faire soigner, ou des visiteurs, qui sont à peu près 20 000, ou des régularisations, je dirais aussi un mot, qui sont à peu près 30 000 dans les deux dernières années. Donc déjà, le reste, c'est-à-dire de l'ordre de 90 000, c'est baptisé familial. Mais quand vous regardez de près, en plus de ça, ce reste, c'est bien sûr le motif qui est familial, mais ces personnes dites de la famille n'arrivent pas pour vivre au foyer dans la famille de la personne qui les fait venir. Elles se mettent au travail comme les autres, et là on a tous les chiffres qu'il faut dans les enquêtes emploi de l'INSEE qui montrent que les immigrés passés 6 mois travaillent à peu près, pas exactement, il y a des nuances, mais travaillent à peu près en même proportion que les Français. Et quand on applique ces proportions, on s'aperçoit que en fait, dans l'immigration actuelle, bien que 10 000 seulement sur les 130 000 soient au titre du travail, en fait, près de 60% sont des travailleurs. Donc, d'une certaine manière, M. Sarkozy peut être content, il a déjà son immigration de travail. Les 50% sont dépassés dans la réalité. C'est cette opposition entre famille et travail qui est purement une opposition d'origine juridique qui ne correspond pas à la réalité de la situation. Alors par derrière, bien sûr, vous savez que l'idée, ils le savent bien, ils ne sont pas idiots, que les personnes qui arrivent au titre de l'immigration familiale vont travailler ou travaillent immédiatement. Mais ce n'est pas, autre mot, Sarkozy, ce n'est pas choisi. Alors, est-ce qu'on peut choisir ? Autre aberration, d'autant plus étonnante, venant d'un gouvernement qui se veut, qui l'est d'ailleurs souvent, libéral. C'est pas au gouvernement de choisir, il en est bien incapable, il est incapable de savoir exactement où il y a tel et tel besoin de main-d'œuvre. Alors il se sert de statistiques de la NPE qui qui ne valent pas grand-chose, mais ce n'est pas non plus aux industriels de choisir de leur côté, ce n'est pas l'autre part de leur alternative, parce qu'ils peuvent pratiquer et ils risquent de pratiquer une discrimination forte. Donc là-dessus, je pense que le système actuel n'est pas si mauvais et que l'immigration familiale, après tout, est aussi une immigration de travail. Alors familiale, c'est au titre de l'immigration étrangère, mais quand on regarde de près, autre mensonge finalement, quand ce n'est pas une immigration véritablement étrangère, ce n'est pas des familles d'étrangers qui arrivent. Pour la majorité, vous allez voir les chiffres, ce sont des familles de Français, c'est-à-dire c'est des étrangers qui rejoignent un Français de leur famille. Alors là-dedans, vous avez sur les... Là, j'ai le chiffre sur 86 000 personnes, donc c'est le chiffre de 2006. Vous avez les étrangers qui... rejoignent un conjoint étranger, sont 12 000. Les enfants d'étrangers, c'est surtout ça qui est l'imagerie populaire, sont 13 000 sur les 86 000. En revanche, les conjoints de Français sont 50 000 et les parents d'enfants français sont 10 400. Autrement dit, plus de 70% du regroupement familial concerne des familles de Français. Et là, on peut quand même se poser la question, a-t-on le droit d'interdire, même les Américains ne font pas ça, a-t-on le droit quand même d'interdire le regroupement de familles de Français? Déjà, le regroupement de familles d'étrangers me paraît entièrement légitime, y compris à la Convention européenne des droits de l'homme, et là, on est en fait dans le regroupement de familles de Français. Et aussi, vous voyez bien que la catégorie majoritaire, c'est celle des conjoints d'étrangers. Donc, limiter, si on doit traduire limiter le regroupement familial, ça veut dire limiter les unions mixtes, dont on nous dit, dans le même discours, nous dit, c'est le meilleur moyen de s'intégrer. Donc, vous voyez là-dedans la confusion qui règne. Alors, pourquoi vouloir limiter les unions mixtes? Je crois qu'il y a une raison, c'est que le gouvernement s'est aperçu, et Hortefeux s'est aperçu, qu'au cours des 3 ou 4 dernières années, dans ces unions mixtes, c'est la part du Maghreb qui s'est beaucoup accrue, qui représente maintenant près de 40% des unions mixtes. C'est tout à fait naturel, c'est-à-dire que les jeunes des cités ont... qui sont sur le dernier segment de la société, ont du mal à trouver des conjoints. Et donc, ils font souvent appel au réseau familial pour trouver un conjoint. Comme ça tombe bien, au Maghreb, la nuptialité a chuté dans des proportions énormes au cours des dernières années. Eh bien, ça fait l'affaire des uns et des autres. Et en plus de ça, ça regarde, c'est le point de vue privé. On en revient à avant Molière, si on se met à régenter les mariages. Mais c'est ça que veut dire limiter l'immigration familiale. C'est compris dans la presse ou c'est compris dans les médias comme, au fond, empêcher l'arrivée de familles nombreuses étrangères. Voilà ce que c'est. Voyez à l'arrière-fond. Et la réalité, c'est empêcher des Français de se marier avec des étrangers ou des étrangères. C'est ça la réalité qui est derrière les chiffres. Donc là-dedans, ces chiffres-là servent, ils servent au moins à éclairer ce que le discours tente de dissimuler. Donc vous voyez, cette opposition travail-famille, je pourrais poursuivre, mais je vais laisser la parole bientôt à Damien, elle n'a pas de sens. Et de la même manière, et bien auparavant, dans son très beau livre sur l'exil, Abdelmalek Sayad avait montré que la distinction entre immigration de travail et immigration de peuplement n'est pas non plus une distinction pertinente. On peut très bien arriver pour un motif de travail et puis, au fur et à mesure des hasards de la vie, décider de se fixer. Mais on peut aussi arriver en voulant se fixer, trouver un travail et puis que ce travail vous amène à quitter le pays où on est arrivé. Toute cette situation se fabrique tout au cours du cycle de l'existence et on ne peut absolument pas les séparer. Je pourrais dire alors, aussi éventuellement au cours de la discussion, mais ça serait un peu long donc je n'aborderai pas la question, c'est la question dite du drainage des cerveaux, ou du brain drain. Là aussi, je crois qu'il faut la regarder de très près. Elle est, à mon avis, utilisée à des fins de propagande qui consistent à dire « Non, Nous, nous les renvoyons à l'étranger parce qu'il faut que l'étranger se développe, on a besoin d'eux. Je pourrais détailler ce qu'a désormais, ça a peut-être été vrai à une certaine période, je ne le crois pas en fait, mais désormais c'est devenu très largement une contre-vérité, surtout quand on connaît le niveau ridicule et la baisse en plus de ça tendancielle de l'aide au développement. Donc cet argument-là, pour en revenir, mais lui aussi est un argument fallacieux. Sur les sans-papiers, je vais terminer par là, puisque ça fournira la transition. D'abord, on en fait tout un plat, c'est pas non plus une population énorme. Les statistiques publiées par la Banque mondiale donnent le pourcentage de sans-papiers parmi les immigrés dans différents pays. Il s'agit bien sûr d'estimations à la louche, mais dans ces estimations à la louche, vous avez des pourcentages de sans-papiers qui sont de l'ordre de 50%, mettons pour un pays comme la Grèce, ou qui sont de l'ordre de 15% pour l'Allemagne, c'est mieux mesuré. Pour la France, on pense que la Banque mondiale donne le chiffre de 7,5%, c'est donc quelque chose de relativement faible. C'est cohérent avec d'autres estimations, disons que du simple au doux. Mais autrement dit, ce n'est pas une masse. Et autre mot terrible, régularisation massive. Il me semble que ce mot tue la chose. Il faut bien sûr régulariser avec les critères les plus humains possibles, les plus objectifs possibles, mais c'est tout. Il ne s'agit pas d'être massif, ça n'a pas de sens, et de toute façon, on ne le sera pas. Et les deux régularisations françaises, celle de 81 et celle de Chevènement, ont été pas du tout massives en comparaison de ce qui a été fait dans les autres pays, Grèce comprise d'ailleurs, mais Portugal, Espagne, Italie, où les chiffres sont beaucoup plus forts, surtout pour Portugal et Grèce, en proportion de la population de ces pays. Alors, autre exemple de mensonge ou de dissimulation ou de tromperie, la question des régularisations. Avant, vous le savez, il y avait une clause qui valait ce qu'elle valait, mais si on était si on pouvait prouver qu'on était résident depuis 10 ans en France, à ce moment-là, on avait une régularisation dite plus ou moins automatique. Ça a été supprimé par la dernière loi. Alors, on se dit, ça a été la première réaction, on va dire, ça va avoir un effet qui sera d'augmenter mécaniquement le nombre des sans-papiers, et de faire que leur durée de séjour soit de plus en plus large. Mais quand on regarde dans les données, dans les chiffres, on a une certaine surprise. Le nombre de régularisations a en fait doublé. Il était de 16 000 par an, si on prend les différentes rubriques, en 2000, donc à l'époque de Jospin d'ailleurs. Il est de 32 000 l'année dernière. C'est quand même, là on se dit, mais il y a un truc bizarre quand même. En même temps, c'est à la gueule du client, c'est-à-dire il est fait sans, en dehors de tout droit, c'est-à-dire les dossiers sont instruits, on ne sait pas dans quelles conditions, on ne sait pas. Et au terme de négociation, je pourrais donner des exemples pour certaines communautés de véritables négociations politiques pour les régularisations avec les responsables dans les préfectures. Donc là-dedans, parce que par derrière aussi, mais ça c'est un autre sujet, on sent confusément et on le voit apparaître comme avec l'ADN, une politique raciste anti-noir. Il y a un certain nombre d'éléments qui vont dans ce sens-là, sans compter des choses comme le discours de Dakar et autres, mais il y a quelque chose de particulier là-dedans qui fait justement que ces négociations se passent plus ou moins en douce, mais enfin elles se passent et enfin il y a ces régularisations. Donc là, la réalité est plutôt en contradiction avec le discours officiel, parce qu'il faut paraître ferme dans le discours officiel, mais quelque part, et je crois que ça sera ma conclusion, quelque part, il ne faut pas non plus que ça explose. Donc le gouvernement joue un espèce de jeu où il maintient une chose et son contraire ensemble, de façon à équilibrer. Au fond, je le comparerais, cette politique, à une cocotte minute. Il y a un gros couvercle qui est les lois sur l'immigration, la police lancée aux trousses, les sans-papiers, et puis comme dans toute cocotte minute, il y a un petit, je ne sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, une soupape. J'avais marqué soupape, mais je ne suis pas un adepte. Je ne suis pas un bon cuisinier. J'avais mis valve, mais pas soupape. Il y a une soupape et qui siffle quand, et qui empêche la dite machine d'exploser. Simplement, dans la cocotte minute, c'est assez bien fait, c'est-à-dire que c'est la soupape qu'on entend, alors que dans la politique de Sarkozy, le but, c'est qu'on n'entende pas la soupape, mais qu'on entende le couvercle.
Merci.